Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur L'Onde Curieuse, le magazine d'information de Fréquence 7. Nous sommes lundi 9 janvier, il fait beau, c'est notable, et aujourd'hui je reçois deux invités particuliers pour parler de la reprise des travaux du centre religieux à Saint-Pierre de Colombier. Une nouvelle qui a provoqué un tollé parmi les élus du parc et la population de la région. Je reçois donc aujourd'hui Sylvain Erangel. Bonjour.
Bonjour.
Alors Sylvain, tu es coprésident de l'Association pour l'Avenir de la Bourge.
Oui, c'est ça, oui.
Et vous êtes ?
On est l'association qui défend le patrimoine du village et l'environnement sur la vallée de la Bourge. Et je suis aussi membre du collectif des Amis de la Bourge, qui est le collectif citoyen opposé au projet.
Ok, bienvenue sur le plateau. Et à ma gauche, je reçois Florence Serbaille, qui est conseillère régionale écologiste et déléguée au parc naturel régional.
Bonjour.
Bonjour, donc Florence, toi tu viens pour apporter la position un peu officielle des élus du parc.
Je viens pour apporter ma position en tant qu'élu du parc et pour rappeler ce qui a été dit effectivement au comité syndical par les élus du parc.
La semaine dernière, nous avons également Sylvain à la régie. Bonjour Sylvain.
Salut tous.
Voilà donc ce qui nous attend, un petit plateau en deuxième partie d'émission. En attendant, c'est l'heure des informations de ce lundi. Ce matin, c'est le début de longues semaines de travaux sur la route nationale 102 entre Aubenas et La Bégude. La première mission, c'est la transformation du carrefour des Pins de Bernardy. Vous savez, c'est le carrefour dangereux quand on arrive du centre-ville d'Aubenas et qu'on veut s'engager direction le Puy. Eh ben, il sera transformé en un magnifique rond-point à trois branches. Attendez-vous à un trafic ralenti entre les tunnels à cause de la mise en place d'une circulation alternée. D'autres grands travaux qui ont commencé ce matin, c'est la rénovation du hall d'accueil de la gare routière d'Aubenas. Jusqu'à la fin des travaux, prévu le 20 février, le hall sera fermé et il faudra faire le tour par l'extérieur pour rejoindre les quais. Je suis allé passer un coup de fil pour savoir ce qui nous attendait. Donc au programme de ces travaux qui sont financés par la région et la communauté de communes du bassin d'Aubenas, la rénovation des toilettes qui étaient vandalisées et rendues inutilisables, qui resteront ensuite gratuites et en accès libre, mais seront fermées la nuit. On attend également un rafraîchissement des murs et des affichages qui permettra une meilleure information du public. C'est un grand pas en avant pour les transports publics en Ardèche, puisqu'à la fin des travaux, on aura peut-être enfin un affichage à jour des horaires de bus. Les mesures aujourd'hui, c'est l'ouverture du dépôt des demandes d'indemnisation pour les agriculteurs et les paysannes touchés par les épisodes de gel de mars et avril 2022. Donc pour l'épisode d'avril, qui concerne presque toutes les communes de Basse-Ardèche, le recours doit être fait par Internet avant le 30 janvier, via un service de téléprocédure qu'on a appelé Télécalam. c'est joli. Les différents formulaires sont disponibles en ligne sur ardèche.gouv.fr ou auprès de votre mairie. Les exploitations concernées par le gel du mois de mars devront recourir à un dossier papier que vous pouvez demander par courriel à ddt-6calam@ardèche.gouv.fr ou télécharger sur internet. On vous rappelle que les indemnisations se font sur la base du volume de récolte touché et non du chiffre d'affaires. Enfin, le gouvernement a annoncé le maintien de l'aide de 6000 euros versée aux entreprises qui embauchent des personnes en alternance pour la première année du contrat d'apprentissage. Un soutien qui vise à encourager les patrons à former des apprentis pour aider notamment les plus jeunes à avancer dans leur parcours professionnel. On remarquera que c'est une mesure généreuse pour les patrons, mais pour les apprentis, les conditions sont toujours un peu délicates puisque un salaire en alternance quand on a moins de 26 ans, c'est plutôt bas. Si vous avez une idée un peu des salaires d'alternance pour les jeunes là ?
Non.
Je crois qu'on a 75% du SMIC, quelque chose comme ça.
Alors si vous avez entre 21 et 25 ans, vous êtes à 53% du SMIC, donc ça fait 905 euros bruts par mois à temps plein. De 18 à 20 ans, 734 euros bruts par mois pour un temps plein. Et les 16-17 ans, eux, travaillent à temps plein pour seulement 461 euros bruts par mois à temps plein. Vous remarquerez que ça fait moins de 6000 euros l'année. Donc on avait dit que c'était une belle aubaine pour les patrons. Ensuite, l'agenda de ce lundi, nous vous proposons ce soir, la mairie d'Aubenas invite les habitants des quartiers de Lazuel, Graza, Les Gras et Les Oliviers à une réunion de quartier à la mairie annexe, au 10 rue Georges Couder. L'objectif de cette réunion, c'est d'apporter des idées pour faire bouger son quartier. Demain soir, à Thueil, la Maison de l'Image vous invite à une projection surprise de cinéma en partenariat avec l'Association française de cinéma d'art et d'essai. C'est un nouveau type d'action mis en place par la Maison de l'Image autour des films qu'ils soutiennent. Il s'agit de proposer chaque mois aux spectatrices et spectateurs une avant-première surprise. La surprise est basée sur une relation de confiance et de fidélité entre les amateurs de cinéma et les programmateurs. Voilà, rendez-vous à la salle de l'Avernade à Thueil à 20h30, mardi 10 janvier. Enfin, pour terminer, notez dans vos agendas que c'est ce jeudi 12 janvier à 18h que l'on célébrera le vernissage de l'exposition « J'irai fleurir sur vos ondes ». C'est une exposition fréquence 7 avec des œuvres créées par l'artiste Elia à l'occasion des 40 ans de la radio. Vous trouverez là-bas des vinyles, des cassettes, des disques et d'autres objets collectés auprès des auditeurs de la radio depuis 40 ans et remis en valeur sous forme d'œuvres d'art qui seront à vendre au bénéfice de l'association De Sources Sûres qui gère la radio. Rendez-vous donc jeudi 12 janvier à 18h pour le vernissage de l'exposition. C'est l'occasion d'un pot de l'amitié et d'une galette des rois offerte par Fréquence 7. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce lundi matin. Je vous propose de continuer en musique avec Georges Brassens et Le Mécréant avant d'attaquer notre plateau avec nos invités.
Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant que de ne pas croire en Dieu? Faudrait avoir la foi de mon charbonnier, qui est heureux comme un pape et con comme un panier. Mon voisin du dessus, un certain Blaise Pascal, m'a gentiment donné ce conseil amical. Mettez-vous à genoux, priez et implorez, faites semblant de croire et bientôt vous croirez. Je me mis à débiter les roduleuses à terre, tous les Ave Maria, tous les Pater Noster. Dans les rues, les cafés, les trains, les autobus, tous les déprofondis, tous les morbionibus. Sur ces entrefaites-là, trouvant dans les orties une soutane à ma taille, je m'en suis travesti. Et ton suré de frais, ma guitare à la main, vers la foi salvatrice, je me mis en chemin. Je tombais sur un boisseau, punaise de sacristie, me prenant pour un autre en querelle, m'ont dit. Mon père, chantez-nous donc quelques refrains sacrés, quelques saintes chansons dont vous avez le secret. Grattant avec ferveur les cordes sous mes doigts, j'entonnais le gorille avec putain de toi. Criant à l'imposteur, au traître, au papelard, elles veulent me faire subir le supplice d'Abélard. Je vais grossir les rangs des muets du sérail, les belles ne viendront plus se pendre à mon poitrail. Grâce à ma voix coupée, j'aurai la place de choix au milieu des petits chanteurs à la croix de bois. Attirée par le bruit, une dame de charité leur dit: que faites-vous, malheureuse, arrêtez. Il y a tant d'hommes aujourd'hui qui ont un penchant pervers à prendre obstinément Cupidon à l'envers. Tant d'hommes dépourvus de leurs virils appâts, à ceux qui en ont encore ne les enlevons pas. Ces arguments massus firent une grosse impression, on me laissa partir avec des ovations. Mais sur le chemin du ciel, je ne ferai plus un pas, la foi viendra d'elle-même ou elle ne viendra pas. Je n'ai jamais tué, jamais violé non plus, il y a déjà quelque temps que je ne vole plus. si l'éternel existe. En fin de compte, il voit que je me conduis guère plus mal que si j'avais la foi.
Et c'était le grand Georges Brassens avec Le Mécréant, un morceau résolument anticlérical. Alors ce n'est pas nécessairement un parti pris, mais c'est bien la thématique du jour, puisque nous parlons aujourd'hui de la reprise du chantier d'un édifice religieux à Saint-Pierre-de-Colombiers après 2 ans de suspension. Je suis donc en studio avec Florence Serbaï. Bonjour.
Bonjour.
Florence Serbaï, donc je rappelle, vous êtes conseillère régionale, déléguée syndicale auprès du parc naturel des Monts d'Ardèche.
Oui, déléguée régionale auprès du syndicat.
Déléguée régionale
du parc, oui.
Exactement. Et Sylvain Erangel, du coup, qui est un habitant de Saint-Pierre-de-Colombiers, mais pas seulement.
Oui, bonjour. Je suis aussi coprésident de l'association de défense de l'environnement et du patrimoine de la Vallée de la Bourge, qui s'appelle Pour l'avenir de la Vallée de la Bourge.
D'accord, bienvenue du coup sur Fréquence 7. Est-ce que Sylvain, tu pourrais nous retracer les grandes lignes de ce dossier, comment tout ça a démarré? Donc alors le village de Saint-Pierre-de-Colombiers est habité en partie par une communauté religieuse catholique qui s'appelle la famille missionnaire Notre-Dame. Ces gens-là avaient un gros projet, donc ils accueillent des pèlerinages et des formations pour des catholiques de tous acabits. C'est une association religieuse qui est contestée, puisqu'ils ont été aussi indexés par la mission de vigilance contre les dérives sectaires. Ça ne les a pas empêchés de demander à faire construire une basilique géante ainsi qu'un lieu d'accueil pour 3500 pèlerins. Le permis de construire a été accordé en 2018 et depuis c'est l'altercation avec une partie des habitants.
Oui, c'est ça, mais c'est vrai qu'il faut remonter loin parce que cette communauté religieuse traditionnaliste, catholique traditionnaliste, a comme premier projet depuis des décennies et des décennies, c'est d'avoir une emprise sur le village, une emprise sur la commune. Par l'inscription sur des listes électorales de beaucoup de religieux qui n'habitent pas là et qui ne vivent pas là. Okay. Donc ça, déjà, il y avait eu un contexte où des habitants étaient mobilisés, mais depuis déjà des décennies. Hein. Donc c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, ça a été ce projet titanesque mené par la famille missionnaire de construire un complexe religieux énorme sur les dernières terres plates agricoles du village en bordure de rivière. Et donc la mobilisation a commencé en 2019 et s'est appuyé sur des fausses déclarations du pétitionnaire, puisqu'il a demandé une dispense d'études d'impact environnemental. Et sur ce dossier, pour avoir le permis de construire, a fait 2 fausses déclarations. La première en disant qu'il n'était pas dans un parc naturel régional, et la deuxième en disant qu'il n'y aurait pas d'impact, les travaux n'impacteraient pas les espèces protégées. Et la mobilisation s'est appuyée sur ça, en disant que c'était incroyable que ça ait pu passer, que les services de l'État aient pu faire passer ça.
Donc la famille missionnaire, eux, ont affirmé que c'était une erreur au moment de remplir le dossier, et qu'ils avaient juste laissé passer ça par erreur.
Oui, c'est ça, une erreur. Notre stylo a fourché. Et les services de l'État, eux, ça a été une erreur. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu qu'il y avait ces deux fausses déclarations.
Oui, il n'y avait pas qu'une erreur en réalité. C'est-à-dire qu'il y avait une deuxième erreur. La famille missionnaire ne s'est pas rendue compte qu'ils étaient dans le parc naturel des Monts d'Ardèche. Et du coup, ils n'ont pas coché la case que ce projet était dans le PNR des Monts d'Ardèche. Et du coup, devait être examiné par les services du parc. Du coup, ils sont un petit peu passés à côté de ça. Et c'est là où les élus du parc sont très mécontents. Parce que, quelque part, c'est une manière de squeezer notre charte, de s'asseoir sur notre charte. Et en vérité, c'est pas possible.
Donc depuis 2019, le parc comme le collectif d'habitants se sont positionnés contre ce projet de basilique.
Oui, les habitants, oui, avec des manifestations, des recours, dans la presse, etc., dans les médias. Et puis le parc s'est officiellement positionné contre fin janvier, le 28 janvier 2020, en prenant position contre ce projet.
Oui, et du coup, c'est une bonne nouvelle. Et surtout, ça a été redit de manière très, très solennelle, là, au dernier comité syndical du PNR des Monts d'Ardèche, donc jeudi, par le président du parc, qui a réaffirmé l'opposition du parc naturel et de ses élus à ce projet de construction de basilique géante dans le lit de la Bourge.
Alors donc le projet de construction a été suspendu il y a 2 ans.
Oui, c'est ça. Donc suite à une occupation du chantier par des militants, les services de l'État ont daigné nous entendre, entendre les citoyens. Et donc c'était en juin 2020. Et ouais. Depuis l'occupation du chantier, la nature est restée tranquille. Mais par contre, la préfecture a pris un arrêté, la préfète de l'époque, Madame Soulimane, a pris un arrêté préfectoral officialisant l'arrêt des travaux, la suspension des travaux en octobre 2020.
Et il y avait une condition à remplir pour suspendre cet arrêté et autoriser la reprise des travaux.
Oui, bah, l'arrêté de la préfète de l'époque, c'était que la famille missionnaire se mette en conformité avec... avec son dossier administratif, donc c'est-à-dire soit elle produit une étude environnementale qui conclut à des effets négatifs sur les espèces protégées, ou alors elle demande une dérogation auprès de l'État, une dérogation pour l'autoriser à détruire des espèces protégées. Et donc là, on a appris par la presse mi-décembre qu'elle avait déposé une étude environnementale qui a l'air de satisfaire les services de l'État.
Alors donc c'est ça, oui, le 29 novembre de 2022, donc la préfecture a autorisé discrètement la reprise des travaux sur le chantier de la basilique. Ça a stupéfié beaucoup de gens, dont les élus du parc. Le préfet est venu à la conférence syndicale à la maison du parc à Jaugeac jeudi dernier. C'était une conférence à laquelle tu assistais aussi, Florence.
Oui, moi j'étais là. Alors j'ai reçu dans ma convocation au comité syndical du parc un petit mot comme quoi le préfet viendrait expliquer la reprise des travaux. C'est lui qui a voulu venir un peu expliquer aux élus, peut-être venir un peu prendre la température. Mais j'ai été très surprise parce que, en fait, si les travaux peuvent reprendre, c'est parce qu'une étude environnementale 4 saisons a été faite. Sauf que dans ma convocation, on n'était pas jointe cette étude environnementale. Généralement, quand on présente quelque chose aux élus, on leur donne des dossiers. Alors les dossiers, ils sont souvent assez gros, 100 pages, 200 pages, 400 pages, on a l'habitude de lire ça. Mais là, il n'y avait rien du tout. Donc concrètement, on est arrivé, on a demandé au préfet, mais en fait, on a besoin de cette étude pour pouvoir débattre, pour que la démocratie s'exerce correctement. Il nous a dit, si vous voulez cette étude... Faites-moi une demande et je vous l'enverrai à ce moment-là. C'est quand même vraiment problématique.
Oui, vous considérez que c'est un manque de transparence et que, comme depuis le début de l'histoire, on a omis de consulter les personnels du parc.
Oui, alors en fait, là, on ne nous consulte même pas. On nous dit, a posteriori, voilà la décision que j'ai prise et elle s'appuie là-dessus, sauf qu'on ne nous donne pas le là-dessus. Donc, c'est quand même un petit peu gênant. On l'a vu, les élus du parc ont vraiment grogné quand le préfet est venu à ce comité syndical. Il y a des gens qui venaient lire des textes votés en conseil municipal. Il y a la déléguée de Burzet qui a rappelé que voilà, l'ensemble du conseil municipal était opposé à ce projet. Il y a d'autres délégués qui ont rappelé qu'ils comptaient sur le parc pour les protéger des nuisances, pour les protéger des routes fermées, pour empêcher les manifestations, pour protéger les populations des violences, alors des violences symboliques, en tout cas des forces de l'ordre qui les empêchent de circuler, etc. Et beaucoup d'élus ont pris la parole, ont dit leur opposition à ce projet, alors qu'ils soient proches de ce projet ou un petit peu plus loin. Et là-dedans, il y a le délégué de Saint-Pierre de Colombier qui a essayé de défendre un petit peu ce projet. Mais même lui, finalement, il avait une de ses adjointes qui est venue dire non, finalement, nous-mêmes dans le conseil municipal, on n'est pas tous d'accord pour ce projet. Donc voilà, finalement, ce qu'il en est sorti, et je pense que le préfet a entendu, ça, c'est une grogne de la part des élus, mais aussi des citoyens qui étaient venus en grand nombre à ce comité du parc et qui ont exprimé de l'inquiétude et qui ont exprimé leur révolte face à ça.
Oui, du coup, toi, tu as été présent aussi, Sylvain, et la position des amis de la Bourge, c'est la même que celle du parc. Vous restez fermement opposés et vous comprenez pas non plus pourquoi la préfecture a gardé le silence et refusé de rendre publique cette étude d'impact.
Oui, bah c'est ça. Il y a une opacité qui est flagrante, hein, et que beaucoup de gens, que ce soit des élus ou des citoyens, vu le monde qu'il y avait jeudi soir au conseil syndical du parc. Donc il y a beaucoup, il y a énormément de monde qui voit cette opacité et qui trouve ça inadmissible. Mais c'est plus qu'une opacité, c'est que le préfet se met hors la loi. Enfin, il va à l'encontre de la Constitution. Parce que la Constitution française déclare qu'il faut que l'État a obligation de faire passer les études environnementales, enfin, tout ce qui concerne l'environnement, aux citoyens qui le demandent. Et or, depuis mai... Alors, ce qui est incroyable, c'est que le préfet dit en mai 2022, c'était la dernière étude environnementale, la dernière mouture qu'a donnée la FMND. Et donc, depuis lors, depuis mai 2022, nous, on considère qu'il viole la Constitution en gardant ces documents non publics. Et c'est ce qui lui a été rappelé jeudi soir. Donc il y a une opacité qui est vraiment exaspérante, mais il y a aussi plus que ça.
Alors moi, j'ai réussi à joindre la préfecture par courriel ce matin. Ils se défendent, eux, de cultiver l'opacité. Elle m'a affirmé la volonté de la préfecture de rendre ce dossier d'étude d'impact disponible à quiconque en ferait la demande. Et donc je me suis permis de répondre que j'aimerais bien en obtenir une copie. On m'a dit que mon courriel était transféré à la DREAL et qu'on me répondrait dans les plus brefs délais. C'est plutôt encourageant, sauf que ces plus brefs délais, en l'occurrence, c'est déjà trop tard parce que tu m'as mentionné ce matin qu'il y avait une limite dans le temps pour contester un arrêté préfectoral.
Oui, l'arrêté préfectoral a été promulgué par la préfecture le 29 novembre, donc il y a 2 mois concrètement jusqu'au 29 janvier pour contester, faire un référé et contester cet arrêté préfectoral. Donc c'est complètement inadmissible de reculer comme ça, de reculer. En fait, les services de l'État concrètement, ils ont mis 1 an et demi à étudier cette étude environnementale et nous on va avoir 1 semaine. C'est juste inadmissible en fait.
Oui, c'est une stratégie du préfet qui a beaucoup inquiété les élus au PNR. Ils n'ont pas compris concrètement pourquoi l'information ne passait pas, pourquoi on n'était pas dans la transparence. Et je pense qu'un des gros problèmes de ce projet, c'est le manque de transparence. Depuis le début, on a un permis de construire qui est déposé sans que les habitants ne soient trop au courant. Et finalement, quand on peut faire un recours, il est déjà un petit peu trop tard. On a le parc qui n'est pas au courant. Et pourtant, ce permis passe. Il y a des erreurs à la préfecture, mais le permis n'est pas annulé. Et là, ce que beaucoup d'élus ont demandé la dernière fois, c'est tout simplement l'annulation de ce permis. Et s'il doit être déposé, qu'il soit redéposé. Et on verra à ce moment-là.
Et donc l'annulation du permis de construire a été demandée officiellement par le parc naturel ?
Non, il a été demandé par, en tout cas lors du dernier comité syndical, par plusieurs élus du parc. Mais je crois que l'association a aussi un recours là-dessus.
Oui, on a demandé au préfet de retirer ce permis de construire. Avec un faisceau d'éléments, hein, d'erreurs, que ce soit du pétitionnaire, mais aussi des services de l'État, des constructions dans le lit mineur de la rivière, alors que l'État demandait expressément que ce ne soit pas fait dans le lit mineur. Donc on a demandé au préfet de suspendre, de retirer ce permis de construire, et il n'a pas répondu. Donc on a fait une requête au tribunal administratif pour attaquer son refus. Et ça, c'est en cours.
Alors ça, c'est en cours, c'est-à-dire vous avez déposé un recours en 2021 ? Non, 2022. En 2022,
ouais,
ok.
Ouais, ouais.
Et donc vous attendez une réponse du tribunal administratif pour une audience prochaine peut-être à ce sujet ?
Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Et puis l'arrêté préfectoral du 29 novembre va être attaqué au tribunal. Ça, c'est une évidence, mais par contre, on n'a pas le fond du dossier, donc voilà. Nous, ce qu'on veut dire, c'est que les citoyens, c'est que on veut bien entendre les arguments de l'État. On veut bien les entendre. On veut lire on veut parler du fond. Et en fait, là, on ne peut parler que de la forme. Et quand le préfet est venu au parc des Monts d'Ardèche jeudi, il est venu pour dire l'État, c'est moi. J'ai décidé, c'est ma responsabilité, et basta, c'est tout. Il n'y a eu aucun argument sur le fond. Et ça, on trouve ça très très dommageable.
Et Par exemple, le parc, vous avez toujours pas non plus reçu cette fameuse étude d'impact environnemental depuis la réunion de jeudi soir.
Alors, je ne sais pas si le président du parc l'a reçu. En tout cas, moi, en tant que conseiller régional et délégué au PNR, j'en ai fait la demande. Et toi, tu dis que tu as eu une réponse ce matin. Moi, du coup, j'ai pas eu de réponse à ma demande. Et pourtant, j'ai faite solennellement lors du comité syndical et je l'ai refaite par mail. Voilà. Moi, je trouve que dans ce projet, c'est quand même un petit peu hallucinant parce que concrètement, on est face à un projet dont l'Église ne veut pas, parce que ça, tu l'as pas rappelé, mais le Vatican est contre ce projet de basilique. C'est pour ça que ça peut pas s'appeler une basilique, ça devait s'appeler une chapelle. Mais en fait, l'évêque de Viviers est contre aussi, c'est-à-dire qu'ils ont même pas le droit de construire une chapelle au vu du droit de l'Église. Ouais. On est sur un projet dont les habitants ne veulent pas non plus. AFSI, c'est un projet qui est assis sur un permis de construire qui a été obtenu frauduleusement, vu qu'on a fait des faux, on a dit qu'on n'était pas dans le PNR et qu'il n'y avait pas d'espace protégé. Et pourtant, il y a le préfet qui réautorise les travaux. Il réautorise les travaux alors qu'il y a un recours qui est fait contre le permis de construire. Et il se base là-dessus sur une étude environnementale qui ne divulgue pas. Donc quand on dit que c'est de l'opacité, c'est non seulement de l'opacité, mais on va presque jusqu'à une certaine absurdité.
Oui, c'est vrai. Du coup, vous comptez agir par le tribunal administratif d'un côté. Il y a un recours qui est déposé par le collectif des Amis de la Bourge. Vous avez toujours le soutien d'autres collectifs et syndicats de la région. Et il y a un appel à manifester. Est-ce que vous comptez rassembler du monde autour de la question physiquement, prochainement ?
Oui, c'est ça. Il y a un appel à manifester par de nombreuses... instances syndicales ou de partis politiques samedi prochain le 14 devant la préfecture de Privas à 14h donc c'est un appel à manifester oui parce que à la préfecture parce que c'est là que en fait ça se joue et oui on espère mobiliser et au vu du monde qui est venu au conseil syndical au parc, on a bon espoir. Mais c'est vrai que le préfet, en agissant de la sorte, met de l'huile sur le feu. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans en arrière, l'ancienne préfète avait réussi à mettre en place un groupe de travail et avait essayé de calmer la situation. Et là, en fonctionnant comme ça, c'est vraiment mettre de l'huile sur le feu et bon, on verra ce qui se passe.
Oui, ça annule tous les efforts de concertation qui avaient l'air de se mettre en place progressivement. Et du côté des élus du PNR, vous attendez donc aussi le résultat du tribunal administratif pour...
Oui, on attend ça, mais il y a eu aussi d'autres demandes qui ont été faites. Par exemple, il y a l'ancien conseiller régional, François Jacquard, qui avait fait une demande au ministère du Budget pour connaître la liste des donateurs qui ont permis le montage financier du projet. Parce que concrètement, c'est beaucoup d'argent. On parle de 18 millions d'euros, il me semble. Et on ne sait pas à qui a payé, qui va payer, pourquoi. Cette demande, elle a été faite, il me semble, il y a 2 ans. On n'a toujours pas les réponses non plus. Enfin, on attend effectivement la liste des donateurs pour savoir finalement qui sont ces soutiens de la famille missionnaire.
Et oui, tout à fait, c'est un projet du coup à un montant faramineux, d'autant plus que Sylvain rappelait tout à l'heure qu'avec les augmentations des coûts des matériaux et l'inflation qui croît, on risque de ne pas être à 18 millions d'euros pour un projet final, mais plutôt une enveloppe autour de 30 millions d'euros. On rappelle aussi que l'association de la famille missionnaire Notre-Dame est reconnue d'intérêt d'État, je ne sais plus comment ça se dit.
Reconnue par l'État.
Et donc, les dons effectués à la famille missionnaire sont déductibles d'impôts à hauteur de 66%. Donc, c'est vrai que tout le volet financier de cette histoire est aussi un peu étrange et mériterait des éclaircissements. Ça veut dire que si on donne 1 million d'euros, qu'est-ce qu'on a en échange, Sylvain ? On a une ristourne d'impôts de 660 000 euros.
Oui, c'est ça, 66%, oui. Ouais. Et ça a été rappelé au préfet... par des citoyens jeudi que le préfet a un devoir de regard des finances des congrégations religieuses, qu'elles soient catholiques, musulmanes, et d'ailleurs le préfet l'a dit. Mais du coup, là on est en fait, et la famille missionnaire a déjà dit qu'ils n'avaient pas les fonds nécessaires à construire pour ce projet. C'est des dons qui viendront de la Providence au fur et à mesure. Donc l'État viole la charte du parc, qu'il signe lui-même, autorise un chantier qui n'est pas financé, ouais, avec 2/3 d'argent public, ouais, C'est vraiment dans l'état actuel des choses, on manque de tout dans les hôpitaux, dans les écoles, etc. Les citoyens ne peuvent pas comprendre ça, ne peuvent pas comprendre.
Ouais, c'est assez anachronique. On a du mal à imaginer comment l'État puisse se priver de 20 millions d'euros d'impôts payés. Oui.
Oui, et puis j'ajoute que cette congrégation religieuse est épinglée par deux institutions. Une institution d'État, la Miviludes, qui quand même se pose des questions sérieuses sur des dérives sectaires. Ouais. La Miviludes a été saisie donc par quelqu'un, donc voilà, et aussi par les représentants catholiques, parce que les représentants catholiques, comme tu l'as précisé, n'ont pas donné leur accord, et en plus ont mis cette congrégation religieuse sous tutelle. Donc en fait, pas financée. Épinglé par des institutions d'État, des institutions catholiques, des fausses déclarations au départ, de l'opacité, ça commence à faire quand même énorme.
Oui, c'est un très gros dossier. Ça a l'air complètement anachronique et complètement à mille lieues de toutes les préoccupations actuelles, qu'elles soient écologiques ou laïques. C'est pour ça que je tenais à vous avoir dès le début de la semaine en studio. Donc le rendez-vous est pris samedi à Privas à 14h, c'est ça,
oui.
Devant la préfecture, pour demander de vive voix au préfet de rendre des comptes à ce sujet.
Oui, c'est ça, ouais.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous voulez appeler les gens à participer d'une manière ou d'une autre? Est-ce que...
Moi, ce que je voulais juste dire, c'est qu'on voit que les citoyens sont mobilisés sur cette question. Ce projet, c'est une grande violence pour les habitants de la vallée. Il y a comme une privatisation du paysage, en même temps qu'une destruction de l'environnement. Et les citoyens le disent, en fait, ils sont là pour protéger l'environnement. Ils ont été là sur une ZAD. Les élus sont là, ils font leur travail aussi à côté pour essayer d'empêcher ce projet pharaonique qui n'a rien à faire là. Et je pense qu'on est dans cette dynamique et que concrètement, ce projet ne verra pas le jour. Il faudrait que l'État l'entende et que les citoyens n'aient pas à se mobiliser aussi fortement qu'ils ont déjà dû le faire. Mais je pense qu'ils répondront présent.
Oui, ben moi, ce que je voulais aussi rappeler, c'est qu'ici à Saint-Pierre-de-Colombier, pour ce sujet ou ailleurs, dans la vallée de la Besorgue à côté, ils luttent contre les méfaits du canyoning, sur le plateau des Gras, contre une centrale à bitume, pour d'autres sujets même qui ne sont pas environnementaux. Ça va au-delà, c'est que les citoyens demandent à retrouver une dignité qui soit entendue et que les services de l'État fassent leur travail et tiennent leur engagement, en fait.
Exactement. Ben, merci beaucoup pour vos interventions. Moi, j'espère qu'on va continuer à parler de ce sujet sur les antennes, sur les ondes de fréquence 7. Je pense qu'on vous réinvitera très bientôt pour voir un peu les nouveaux développements de cette histoire. Merci Florence Serbaille.
Merci à vous.
Mais merci Sylvain Erangel d'être venu jusqu'ici.
Merci beaucoup. Merci.
Merci Sylvain à la régie. C'est la fin de cette émission de L'Onde Curieuse. Je vous rappelle donc le programme de cet après-midi. À 13h, nous avons les jardins suspendus, c'est ça ?
C'est ça.
Est-ce que tu peux m'aider ?
Dès 15h, on pourra retrouver le Télex. 17h, la rediffusion de L'Onde Curieuse, bien sûr. 18h, il y aura Solidaire d'abord en direct. Et à 21h, Hexagone Live, avec aujourd'hui un concert des Rita Mitsuko en 2002.
Super, merci beaucoup pour ce coup de main Sylvain. On vous souhaite à toutes et à tous une belle après-midi. N'oubliez pas de réserver votre samedi pour une petite promenade à Privas. On organisera peut-être des covoiturages pour montrer notre détermination à rester écologiste. À très bientôt.